Le colonel Aureliano Buendía fut à l'origine de 32 soulèvements armés et autant de fois vaincus. De 17 femmes différentes, il eut 17 enfants mâles qui furent exterminés l'un après l'autre dans la même nuit, alors que l'aîné n'avait pas 35 ans. Il échappa à 14 attentats, à 63 embuscades et à un peloton d'exécution. Il survécut à une dose massive de strychnine versée dans son café et qui eut suffi à tuer un cheval. Il refusa l'ordre du mérite que lui décernait le président de la République. Il fut promu au commandement général des forces révolutionnaires, son autorité s'étendant sur tout le pays, d'une frontière à l'autre, et devint l'homme le plus craint des gens au pouvoir, mais jamais il ne permit qu'on le prît en photographie. Il déclina l'offre de pension à vie qu'on lui fit après la guerre et vécut jusqu'à ses vieux jours de petits poissons en or qu'il fabriquait dans son atelier de Macondo. Bien qu'il se battît toujours à la tête de ses troupes, la seule blessure qu'il reçut jamais, ce fut lui qui se la fit, après la capitulation de Néerlandia qui mit fin à bientôt 20 années de guerre civile. Il se lâcha un coup de pistolet en pleine poitrine et le projectile lui ressortit par l'épaule sans avoir atteint aucun centre vital. Tout ce qui demeura de cette succession d'événements fut une rue à son nom dans Macondo. Et pourtant, d'après ce qu'il déclara quelques années avant de mourir de vieillesse, il n'en espérait pas tant ce jour où il partit avec ses 21 hommes à l'aube rejoindre les forces du général Victorio Medina. « Nous te laissons Macondo », se borna-t-il à dire à Arcadio avant le départ. « Nous te le laissons en bon ordre. Fais en sorte que nous le retrouvions encore en meilleur état. » Arcadio donna une interprétation toute personnelle à cette recommandation. Il s'inventa un uniforme avec des galons et des épaulettes de maréchal, inspiré de ce qu'il avait vu dans les gravures d'un livre de Melquiades, et pendit à sa ceinture le sabre à gland doré du capitaine fusillé. Il plaça les deux pièces d'artillerie à l'entrée du village, fit revêtir l'uniforme à ses anciens élèves exaltés par ses discours incendiaires, et les laissa tout armés déambuler par les rues afin de donner aux étrangers l'impression que le village était invulnérable. Ce fut un stratagème à double tranchant, car le gouvernement resta 10 mois sans oser attaquer la place. Mais lorsqu'il le fit, il lança contre elle des forces si disproportionnées qu'en l'espace d'une demi-heure, toute résistance se trouva anéantie. Dès sa première journée de prise de pouvoir, Arcadio révéla un goût prononcé pour les décrets. Il lui arriva d'en rendre jusqu'à 4 par jour pour ordonner et faire exécuter tout ce qui lui passait par la tête. Il instaura le service militaire obligatoire dès l'âge de 18 ans, déclara d'utilité publique tous les animaux qui sillonnaient les rues après 6 heures du soir, et imposa aux hommes majeurs le port obligatoire d'un brassard rouge. Il séquestra le père Nicanor dans le presbytère, le menaçant d'être fusillé s'il sortait, lui interdit de dire la messe et de faire sonner les cloches, à moins que ce ne fût pour célébrer les victoires libérales. Pour que personne ne vînt à douter de la gravité de ses intentions, il ordonna qu'un peloton d'exécution s'entraînât sur la place publique en tirant sur un épouvantail à moineaux. Au début, nul ne le prit au sérieux. Ce n'était, après tout, que les grands gosses de l'école qui s'amusaient à jouer aux adultes. Un soir, pourtant, quand Arcadio pénétra dans l'établissement de Catarino, le trompettiste salua son entrée d'une sonnerie guerrière qui provoqua l'hilarité de tous les clients, et Arcadio le fit fusiller pour injure aux représentants de l'autorité. Ceux qui protestèrent, il les mit au pain sec et à l'eau, les fers aux chevilles, dans une des salles de classe. « Tu es un assassin !» lui cria Ursula chaque fois qu'elle apprenait une nouvelle mesure arbitraire. « Quand Aureliano le saura, il te fera fusiller à ton tour et je serai la première à m'en réjouir !» Mais tout fut peine perdue. Arcadio continua à resserrer les taux d'une manière aussi rigoureuse que gratuite jusqu'à devenir le plus cruel tyran que connut jamais Macondo. « Vous vérifiez à vos dépens la différence, » dit un jour Apollinar Moscoté. « Voici le paradis libéral. » Arcadio fut mis au courant. À la tête d'une patrouille, il donna l'assaut à la maison, brisa tous les meubles, fessa les filles et traîna après lui Apollinar Moscoté. Au moment où Ursula fit irruption dans la cour de la caserne après avoir traversé le village, en clamant sa honte et en brandissant pleine de rage un martinet, Arcadio en personne s'apprêtait à donner l'ordre de tirer au peloton d'exécution. « Ose, bâtard !» s'écria Ursula. Avant qu'Arcadio n'ait eu le temps de faire un geste, elle lui asséna le premier coup de fouet. « Ose, assassin » fit-elle en hurlant. « Et tue-moi par-dessus le marché, fils de mauvaise mère! Comme ça, je n'aurai plus Dieu pour pleurer de honte d'avoir élevé un monstre pareil !» Elle le frappa tant et si bien qu'Arcadio se replia et rentra en lui-même comme un escargot. Don Apollinar Moscoté était inconscient, ligoté au poteau où l'avait précédé l'épouvantail à moineaux, tout déchiqueté par les tirs d'entraînement. Les petits jeunes qui composaient le peloton d'exécution se dispersèrent de crainte qu'Ursula n'acheva de soulager sur eux sa colère, mais elle n'eut même pas un regard pour eux. Elle laissa Arcadio avec son uniforme traînant dans la poussière, bramant de rage et de douleur, et détacha Apollinar Moscoté pour le reconduire chez lui. Avant de quitter le quartier, elle ôta leur fer aux prisonniers. À compter de ce jour, ce fut elle qui commanda au village. Elle rétablit l'office dominical, suspendit le port des brassards rouges, annula toute mesure édictée sous le coup de la mauvaise humeur. Pourtant, en dépit de l'énergie dont elle faisait preuve, elle ne cessa de pleurer sur son infortuné destin. Elle se sentit si seule qu'elle rechercha la vaine compagnie de son époux oublié sous le châtaignier.
« Regarde où nous en sommes arrivés !» lui disait-elle,
cependant que les pluies de juin menaçaient d'effondrer le petit auvent de palme.
« Vois la maison vide, nos enfants éparpillés de par le monde, et nous deux à nouveau seuls comme au premier temps !»
José Arcadio Buendía, plongé dans un abîme d'inconscience, restait sourd à ses lamentations. Au début de sa folie, c'était sur un ton pressant et par des bribes de latin qu'il prévenait de ses besoins. De brefs éclairs de lucidité, quand Amaranta lui apportait à manger, lui permettaient de communiquer les peines et les soucis qui lui pesaient le plus, et de se prêter avec docilité à ses ventouses et à ses sinapismes. Mais à l'époque où Ursula s'en vint se lamenter auprès de lui, il avait perdu tout contact avec la réalité. Toujours assis sur son petit banc, elle baignait successivement chaque partie de son corps en lui donnant des nouvelles de la famille.
« Aureliano est parti pour la guerre. Cela fait déjà plus de 4 mois, et nous ne savons rien de lui, »
disait-elle en lui frictionnant l'épaule avec un torchon trempé dans l'eau savonneuse. « José Arcadio est de nouveau parmi nous. C'est maintenant un homme fait, plus grand que toi et tout brodé au point de croix. Mais il n'est revenu que pour jeter la honte sur notre maison. » Elle crut pourtant déceler que son mari devenait plus sombre à entendre ces mauvaises nouvelles. Elle choisit alors de lui mentir.
« Ne crois rien de ce que je te raconte, » disait-elle en recouvrant de cendres ses excréments pour les ramasser à la pelle. « Dieu a voulu que José Arcadio et Rebecca se marient, et à présent les voilà très heureux. »
Elle en vint à le duper avec tant de sincérité que ses propres mensonges finirent par la consoler.
« Arcadio est déjà un homme posé, » disait-elle. Et très courageux, très beau garçon, avec son uniforme et son sabre.
Autant parler à un mort, car José Arcadio Buendía était déjà hors d'atteinte de toute préoccupation de ce genre. Mais elle insista. Elle le voyait si inoffensif, si indifférent à tout, qu'elle résolut de le détacher. Il ne se leva même pas de son petit banc. Il continua à demeurer exposé au soleil et à la pluie, comme si les cordes n'étaient pas ce qu'il avait retenu attaché au tronc du châtaignier, mais quelque force supérieure à toute entrave visible. Vers le mois d'août, alors que l'hiver commençait à s'éterniser, Ursula put enfin lui apporter une nouvelle qui paraissait vraie.
« Figure-toi que la bonne fortune ne veut décidément pas nous laisser souffler, » lui dit-elle. « Amaranta et l'Italien au piano mécanique vont se marier. »
L'amitié d'Amaranta et de Pietro Crespi, en effet, avait bien progressé, favorisé par la confiance d'Ursula qui, cette fois, ne jugea pas nécessaire de surveiller leur rendez-vous. Leur fiançaille était crépusculaire. L'Italien arrivait en fin d'après-midi, un gardénia à la boutonnière, et traduisait pour Amaranta des sonnets de Pétrarque. Il demeurait sous la véranda à respirer le suffocant parfum d'origan et de rose, lui plongé dans sa lecture et elle filant de la dentelle au fuseau, indifférent aux péripéties et aux mauvaises nouvelles de la guerre, jusqu'à ce que les moustiques les contraignissent à chercher refuge au salon. La sensibilité d'Amaranta, sa tendresse discrète mais enveloppante, avait peu à peu tissé autour de son fiancé une invisible toile d'araignée qu'il devait bel et bien écarter de ses doigts pâles et dépourvus de bagues pour quitter la maison à 8 heures sonnantes. Ils avaient rempli un bel album de cartes postales que Pietro Crespi recevait d'Italie. C'étaient des images d'amoureux dans des parcs solitaires, avec des vignettes représentant des cœurs percés de flèches et des rubans dorés tenus par des colombes. « Je connais bien ce parc de Florence, » disait Pietro Crespi en regardant les cartes postales. « On n'a qu'à tendre la main et les oiseaux descendent y manger. » Parfois, devant une aquarelle de Venise, la nostalgie changeait en 12 arômes de fleurs l'odeur de vases et de fruits de mer avariés des canaux. Amaranta soupirait,
riaient, rêvaient d'une seconde patrie où hommes et femmes, tous aussi beaux les uns que les autres, parlaient avec des mots d'enfants. Et de villes antiques où ne subsistait pour perpétuer le souvenir de leur grandeur passée que les chars rôdant parmi les ruines. Après avoir traversé l'océan à sa recherche, après l'avoir confondu avec la passion que mettait Rebecca dans ses fougueux attouchements, Pietro Crespi avait enfin trouvé l'amour. Le bonheur apporta avec lui la prospérité. Son magasin occupait alors presque toute la largeur d'un pâté de maison et était devenu le refuge de l'imagination, où l'on aimait s'éterniser, avec des reproductions du campanile de Florence, qui donnait l'heure en un concert de carillon, des boîtes à musique de Sorrente, des poudriers de Chine qui jouaient un air sur 5 notes dès qu'on soulevait leur couvercle, et tous les instruments de musique imaginables et toutes les mécaniques à ressort qui se pouvaient inventer. Bruno Crespi, son frère cadet, tenait le magasin car lui-même ne pouvait déjà pas suffire à tous ses cours de musique. Grâce à lui, la rue aux Turcs, avec son éblouissante vitrine de bibelots, devint bientôt un îlot de calme, plein de mélodies, où l'on pouvait oublier les menées tyranniques d'Arcadio et le lointain cauchemar de la guerre. Quand Ursula décida la reprise des offices dominicaux, Pietro Crespi fit don à l'église d'un harmonium allemand, organisa une chorale enfantine et prépara tout un répertoire grégorien qui mit une note de splendeur dans le rituel funèbre du Père Nicanor. Personne ne doutait qu'il ferait d'Amaranta une épouse comblée. Sans précipiter l'évolution de leurs sentiments, se laissant guider par le penchant naturel de leur cœur, ils en arrivèrent au moment où il ne resta plus qu'à fixer la date du mariage. Ils ne devaient rencontrer aucun obstacle. Ursula, dans son fort intérieur, s'accusait d'avoir fait mal tourner le destin de Rebecca par ses atermoiements répétés, et elle n'était pas disposée à collectionner les remords. Le deuil sévère imposé par la mort de Remedios avait été relégué au second plan par les mortifications de la guerre, l'absence d'Aureliano, la brutalité d'Arcadio et la mise à la rue de José Arcadio et Rebecca. Comme les noces étaient toutes proches, Pietro Crespi avait laissé entendre qu'Aureliano José, auquel il portait un amour presque paternel, pourrait être considéré comme son fils aîné. Tout donnait à penser qu'Amaranta s'orientait vers un bonheur sans encombre. Mais, au contraire de Rebecca, elle ne montrait aucun empressement. Aussi patiemment qu'elle décorait les nappes de couleurs vives, cousait de merveilleux ouvrages en passementerie, brodait au poids de croix des pans royaux, elle attendit que Pietro Crespi ne pût plus résister aux commandements impétueux de son cœur. Son heure arriva avec les pluies funestes d'octobre. Pietro Crespi retira le métier à broder qu'elle tenait sur ses genoux et lui prit la main et la serra entre les siennes.
« Je n'en peux plus l'attendre, » lui dit-il. « Nous allons nous marier le mois prochain. »
Au contact de ses mains glacées, Amaranta ne trembla point. Elle retira la sienne, comme un petit animal fuyant, et retourna à son labeur.
« Ne sois pas naïf, Crespi, » fit-elle en souriant. « Même morte, je ne me marierai pas avec toi. »
Pietro Crespi ne se contrôla plus. Il se mit à pleurer sans pudeur, allant presque jusqu'à se briser les doigts de désespoir, mais ne réussit pas à l'ébranler. « Ne perds pas ton temps, » trouva seulement à ajouter Amaranta. « Si vraiment tu m'aimes tant que ça, ne remets plus les pieds dans cette maison. »
Ursula crut devenir folle de honte.
Pietro Crespi épuisa toute la gamme des prières et supplications. Il en arriva à connaître les pires et les plus incroyables humiliations. Il pleura tout un après-midi dans les bras d'Ursula, qui aurait vendu son âme pour le consoler. Certains soirs de pluie, on le vit rôder autour de la maison, muni d'un parapluie de soie, essayant de surprendre un peu de lumière dans la chambre d'Amaranta. Jamais il ne fut mieux habillé qu'à cette époque. Son auguste tête d'empereur, en proie aux tourments, acquit un étrange air de grandeur. Il importuna les amis d'Amaranta, celle qui allait broder sous la véranda pour qu'elle voulût bien essayer de la convaincre. Il délaissa ses affaires. Il passait toute la journée dans l'arrière-boutique à écrire des billets insensés qu'il faisait parvenir à Amaranta, accompagnés de pétales séchés et de papillons naturalisés, et qu'elle retournait sans même les ouvrir. Il restait des heures et des heures enfermé à jouer de la sitar. Une nuit, il se prit à chanter. Macondo se réveilla dans une sorte de stupeur, transporté au 7e ciel par une sitar qui ne méritait pas de jouer en ce bas monde et par une voix chargée de tant d'amour qu'on ne pouvait croire que sa pareille existât sur terre.
Pietro Crespi vit alors la lumière apparaître à toutes les fenêtres du village, sauf à celle d'Amaranta. Le 2 novembre, jour de tous les morts, son frère ouvrit le magasin et trouva toutes les lampes allumées, toutes les boîtes à musique ouvertes, toutes les pendules bloquées à la même heure désormais éternelle, et au milieu de ce concert désordonné, découvrit Pietro Crespi, dans le bureau de l'arrière-boutique, les poignets tranchés avec un rasoir, les deux mains dans une bassine de bain-joint. Ursula décida qu'il serait veillé à la maison. Le père Nicanor s'opposait aux obsèques religieuses et à la sépulture en terre chrétienne. Ursula tint bon contre lui. « D'une façon que ni vous ni moi ne pouvons comprendre, lui dit-elle, cet homme est un saint, et je vais l'enterrer contre votre volonté, à côté de la tombe de Melquiades. » Elle le fit, avec l'approbation de tout le village, en de grandioses funérailles. Amaranta ne quitta pas sa chambre. Elle entendit depuis son lit les sanglots d'Ursula, les pas et les murmures de la foule qui envahit la maison, les hurlements des pleureuses, et bientôt un profond silence, plein du parfum des fleurs piétinées. Longtemps encore, elle continua à sentir l'odeur légère de lavande qui précédait Pietro Crespi à la tombée du jour, mais elle eut assez de force pour ne pas s'abandonner au délire. Ursula se mit à l'ignorer. Elle ne leva même pas les yeux pour s'apitoyer sur elle, cet après-midi où Amaranta fit irruption dans la cuisine et mit sa main dans les braises du fourneau jusqu'à ce que la douleur fût telle qu'elle ne sentit plus rien sauf la puanteur de sa propre chair brûlée. Ce fut un remède de cheval contre le remords. Pendant plusieurs jours, elle alla et vint dans la maison, la main dans un bol de blanc d'œuf, et quand ses brûlures furent guéries, ce fut comme si les blancs d'œufs avaient pareillement cicatrisé les ulcères de son cœur. La seule trace visible de cette tragédie resta la bande de gaze noire qu'elle enroula autour de sa main brûlée et qu'elle devait porter jusqu'à sa mort. Arcadio fit montre d'une rare générosité en décrétant un deuil général après la mort de Pietro Crespi. Ursula interpréta son geste comme le retour de la brebis égarée. Pourtant, elle se trompait. Elle n'avait pas perdu Arcadio depuis le jour où il avait revêtu l'uniforme de soldat, mais depuis toujours. Elle croyait l'avoir élevé comme un fils, ainsi qu'elle avait élevé Rebecca sans privilège ni discrimination. Cependant, tout le temps que dura la peste de l'insomnie, entre la fièvre utilitaire d'Ursula, les délires de José Arcadio Buendía, l'hermétisme d'Aureliano, la rivalité mortelle d'Amaranta et de Rebecca, Arcadio demeura un enfant solitaire et effarouché. Aureliano lui apprit à lire et à écrire, mais en pensant à autre chose, comme l'aurait fait un étranger. Il lui faisait don de ses vêtements que Visitation devait retailler quand ils étaient déjà bons achetés. Arcadio souffrait de ses chaussures trop grandes pour lui, de ses pantalons rapiécés, de ses fesses de femme. Il ne réussit jamais à se confier à quelqu'un mieux qu'il ne le fit avec Visitation et Cataoré dans leur propre langage. Melquiades fut le seul à s'occuper vraiment de lui, quand il lui faisait écouter ses textes incompréhensibles ou qu'il lui donnait des indications sur l'art de la daguerréotypie. Nul ne s'imagina combien il put pleurer sa mort en secret et avec quel désespoir il s'acharna à vouloir le ressusciter en étudiant vainement les papiers qu'il avait laissés. L'école, où on faisait attention à lui et le respectait, puis l'exercice du pouvoir, avec ses décrets sans discussion et son uniforme de gloire, le libérèrent du poids de son ancienne amertume. Un soir, chez Catarino, quelqu'un osa lui dire « Tu ne mérites pas le nom que tu portes !» Contre toute attente, Arcadio ne le fit pas fusiller. « Je m'en fais gloire, dit-il. Je ne suis pas un Buendía. » À cette réplique, ceux qui connaissaient le secret de sa filiation pensèrent qu'il était également au courant, mais en réalité, il ne le sut jamais. Pilar Ternera, sa mère, qui lui avait fait pétiller le sang dans les veines lorsqu'il la vit dans le cabinet de daguerréotypie, l'obséda d'une manière aussi irrésistible qu'autrefois José Arcadio, puis Aureliano. Bien qu'elle eût perdu ses charmes et son rire éclatant, il la cherchait et la trouvait dans l'odeur de fumée qu'elle traînait après elle. Peu avant les hostilités, un jour où vers midi elle tardait à venir chercher son plus jeune fils à l'école, Arcadio se mit à l'attendre dans la pièce où il lui arrivait de faire la sieste et où il enchaîna plus tard les prisonniers. Tandis que l'enfant s'amusait dans la cour, il guetta sa venue, tremblant d'impatience dans son hamac, certain que Pilar Ternera devait passer par là. Elle arriva. Arcadio la saisit par le poignet et voulut la renverser dans le hamac.
« Je ne peux pas, je ne peux pas !» fit Pilar Ternera avec horreur. « Tu ne peux imaginer à quel point je voudrais te faire plaisir, mais Dieu m'est témoin que je ne peux pas !»
Arcadio la souleva par la taille avec cette force prodigieuse qu'il avait reçue en héritage et sentit que le monde entier s'évanouissait au seul contact de cette peau.
« Ne fais pas la sainte !» lui disait-il. « En fin de compte, tout le monde sait que tu n'es qu'une putain !»
Pilar surmonta le dégoût que lui inspirait son misérable destin.
« Les enfants vont s'apercevoir de quelque chose, » murmura-t-elle. « Mieux vaut cette nuit. Ne mets pas la barre à ta porte. »